Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission consacrée à l'industrie. Le mois dernier, nous nous sommes interrogés sur son avenir, sur les conditions pour qu'elle se développe. Revoir les finalités de la production en partant des besoins de la population, investir dans la recherche, préserver l'environnement, former et reconnaître les compétences des salariés sont pour la CGT des nécessités. Toutefois, comme nous l'ont dit tous nos participants, ces principes sont souvent mis à mal par les logiques financières de rentabilité aux dépens de l'humain et de la nature. Pour la CGT, les salariés sont les meilleurs experts de leur travail. Ce sont eux qui créent la richesse de leur entreprise. Et ils doivent, en conséquence, pouvoir intervenir, orienter les stratégies économiques et sociales et bénéficier des fruits de leur travail. Nous le savons tous. Ces exigences se heurtent à une résistance acharnée de la part de ceux qui estiment que l'argent et la propriété doivent dominer, sont les seules sources de légitimité. La propriété dans toutes ses formes, y compris celle de détruire l'outil de production pour accroître son profit. Depuis sa création, la CGT se bat pour une appropriation collective des moyens de production et la fin de l'exploitation capitaliste. Évidemment, la fin de l'exploitation capitaliste, c'est un objectif un chouïa ambitieux, dont l'ampleur peut parfois nous conduire à du découragement. Mais en attendant le grand soir, c'est aujourd'hui et maintenant, par des actions concrètes, répétées, multipliées, que la lutte contre l'exploitation capitaliste s'accomplit. La CGT déploie de multiples formes de résistance. Intervention dans les CSE, lutte syndicale, et surtout en ce moment avec les luttes qui se multiplient sur les salaires et les conditions de travail, construction de projets de développement alternatifs et réappropriation de l'outil de production par la création de SCOP ou de SIC. Nous allons donc retrouver Agnès Naton, secrétaire générale du comité régional, en compagnie de Franck Perrin de Thalès et de Guillaume Moulin de la SAD. À travers les exemples de ces deux luttes, nous verrons comment, très concrètement, des solutions alternatives se construisent. Et parce que construire le monde de demain passe aussi par l'action quotidienne de nos élus et mandatés, nous finirons en compagnie de Thierry Achintre, de la Fédé des sociétés d'études, qui a relevé l'immense défi de nous expliquer en moins de 10 minutes les leviers d'intervention syndicale dans les entreprises en matière climatique et environnementale. Bonne écoute.
Donc nous allons débuter avec toi Guillaume Dumoulin, ex-salarié de la SAD. Donc la SAD, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la SAD ?
Bonjour Agnès. La SAD, c'est la filiale du groupe Presstalis qui était chargée de la distribution de la presse nationale en France. Donc la SAD, c'était la filiale qui distribuait sur les principales villes de province, Lyon, Marseille, Bordeaux, Le Mans, Nantes et j'en passe. Filiale qui a été liquidée le 15 mai 2020 par le tribunal de commerce.
Effectivement, on a beaucoup entendu parler de vous dans cette période-là, entre 2020 et 2021. Vous avez occupé votre lieu de travail pendant plus d'un an, suite au vote de la loi du 18 octobre 2019. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette loi, de son contenu et de ses conséquences ?
Eh bien, cette loi, en fait, elle a été votée par le gouvernement Macron suite à la volonté notamment des principaux éditeurs de modifier ce qu'on appelait, la loi Bichet. Alors, elle s'appelle toujours comme ça parce que c'est pas une abrogation de la loi, une nouvelle, c'est une modification, mais que nous, on considère à la CGT valant une abrogation. La loi Bichet, c'est un compromis aux sorties de la guerre sur les valeurs du Conseil national de la Résistance, qui vise à ce que l'ensemble des titres, peu importe leurs moyens, qu'ils soient riches ou pauvres, puissent avoir accès à la distribution, puisqu'il faut quand même imaginer que c'est un coût assez élevé pour un titre de presse d'être présent chaque jour sur tous les points de vente en France. On a plus de 20 000. Et donc, pour éviter ce qui se passait avant-guerre avec le monopole d'Hachette qui, par exemple, refusait de distribuer l'Humanité, cette loi, qui est une loi de compromis entre la droite et la gauche de l'époque, avait créé ce qu'on a appelé les NMPP, les Nouvelles Messageries de Presse Parisienne, qui imposaient, entre guillemets, l'obligation du covoiturage pour tous les éditeurs. Et ça a perduré jusqu'aux années 2019, puisque les éditeurs, en réalité, notamment les puissants, eux ne veulent pas être propriétaires de l'outil de distribution. Ils l'étaient par obligation, par la loi, dans cet objectif de pluralisme, Et eux, ça les embête un peu. Et ils ont réussi à obtenir de ce gouvernement la modification de la loi. Et c'est allé très vite derrière, puisque, tu l'as dit, hein, octobre 2019, la loi est modifiée. Et la loi leur permet de sortir de ce système. Et très vite derrière, Presstalis est emmené au tribunal de commerce. Il commence par la liquidation des filiales le 15 mai. Et donc, on a plus de 518 salariés qui sont licenciés sur toute la France, dont 110 titulaires à la SAD de Vénissieux.
Donc, des conséquences pour les salariés, c'est, tu l'as dit, un démantèlement de tout le réseau presse, mais il y a une conséquence importante aussi pour la démocratie, les usagers.
Alors, la conséquence directe, c'est que le 15 mai, quand le tribunal prononce la liquidation, dès le soir même, il n'y a plus de distribution. C'est-à-dire que la France, en province, alors pas sur Paris parce qu'il y a eu une continuité d'activité, mais en province, à partir du 15 mai, il n'y a plus de presse pendant quasiment plus de 3 semaines sur l'ensemble du territoire des principales communes de France. Hein.
Donc concrètement, plus personne ne reçoit son journal ou plus personne ne peut acheter son journal quotidien et les magazines.
C'est ça. C'est-à-dire que le groupe Presstalis s'assurait de la presse nationale. Donc tous les magazines et les quotidiens nationaux n'étaient plus présents en kiosque chez les marchands de journaux, que ce soit Maison de la Presse, Tabac Presse, aussi sur tout le territoire régional. Plus de 60% du territoire a été privé de la presse pendant plus de 3 semaines. Ça a duré 1 mois et demi à Lyon et jusqu'à 4 mois et 9 jours sur le territoire de Marseille. C'est quand même assez hallucinant, surtout qu'il faut se rappeler que fin juin 2020, on était en pleine élection régionale. Donc c'est-à-dire que les citoyens ont été effectivement privés de la presse nationale, comme un élément démocratique non négligeable, en plein moment d'élection, ce qui est quand même une aberration. Mais qui étaient les conséquences de la liquidation du groupe.
Donc c'est à ce moment-là, Guillaume, que la CGT, avec les salariés, qui sont, je crois, très fortement syndiqués à la CGT, décident d'occuper leur lieu de travail pendant plus d'une année. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément les raisons qui ont poussé les salariés et la CGT à occuper ce lieu de travail pour vraiment se réapproprier les moyens de production ?
Pour nous, déjà, dans notre idéologie, le travail, il nous appartient à nous. Il appartenait pas, c'est pas à des gens de l'extérieur de décider de nous priver ou pas de notre travail, puisque le travail, c'était le nôtre. On le faisait depuis des générations dans l'entreprise, il n'y avait pas de raison que ça s'arrête. Surtout que ce travail, il disparaissait pas. Le travail ne disparaissant pas, puisqu'il fallait bien trouver une solution pour distribuer, la volonté en réalité des éditeurs, c'était de confier cette activité à quelqu'un d'autre. Ils voulaient juste se débarrasser des salariés et sous-traiter. Et donc, d'emblée, la première chose qu'on a dit, c'est, d'ailleurs à la différence d'autres syndicats, ça a été de dire... Ben non, nous, on ne veut pas un chèque, on ne veut pas une indemnisation. Nous, il n'y a pas à nous indemniser parce que notre travail, on doit continuer à le faire. Donc, d'emblée, la bataille a été de dire il faut maintenir l'emploi sur place, à statut, tel qu'il était. Et il faut se battre sur cette question-là. Cette question a beaucoup porté parce que, comme tu l'as dit, effectivement, on était fortement syndiqués. Il y avait un travail syndical fort. La CGT était omniprésente dans l'entreprise, puisqu'on était plus que majoritaire. Donc, avait un poids même idéologique sur ces batailles-là. Donc on a décidé effectivement de se battre pour récupérer l'activité qu'on essayait de nous enlever, mais parce qu'on considérait que c'était la nôtre.
Donc reprendre l'activité, mais ça voulait dire aussi à un moment donné opter pour un statut juridique de l'entreprise. Donc j'imagine que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, qu'il a fallu prendre son bâton de pèlerin pour aller rencontrer les politiques, les pouvoirs publics. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Et puis je crois que vous avez opté pour un statut SIC. Tu vas nous dire ce que c'est et pourquoi vous avez opté pour ce statut-là ?
Déjà, quand on prend le choix de dire voilà, on continue, la première chose à faire déjà, c'est occuper le site. Donc déjà, c'est de dire, on ne rentre pas chez soi le soir. Hein. Le tribunal, il nous a dit de rentrer. On s'assoit sur sa décision et nous, on reste. Alors ça, c'est la première partie. Protéger l'outil de travail parce qu'effectivement, s'il faut redémarrer, il faut racheter tout de A à Z, on n'aura peut-être pas les moyens. Effectivement, après, il faut solliciter les éditeurs, les pouvoirs publics, parce qu'on pensait notamment à la CGT qu'ils ont un rôle à jouer, et d'aller les solliciter en leur disant « Mais est-ce que c'est normal que vos concitoyens n'aient pas la presse ?» Parce qu'en haut, on a décidé de liquider l'outil de distribution qui permettait à ce que chaque citoyen puisse trouver son titre de presse chez son marchand de journaux proche. Alors que là, ça fait plus d'un mois et demi qu'il n'a plus rien. Donc il y a eu ce travail-là d'aller les chercher pour aller trouver des financements pour redémarrer, puisque redémarrer une entreprise, ça a un coût au départ. Et des salariés licenciés, ils n'ont pas forcément les moyens d'investir là-dedans. C'est-à-dire que le capital, ce n'est quand même pas nous qui l'avons. Et donc, il faut aller chercher des moyens auprès des pouvoirs publics. Et puis, il faut aller aussi chercher des moyens envers les patrons de presse, qui sont quand même eux qui avaient pris la décision d'essayer de faire des économies, donc d'aller chercher l'argent aussi vers les éditeurs. Et c'est là où le rôle d'ailleurs du syndicat et de la CGT a joué pleinement son rôle, puisque si l'entreprise était détruite, lui, le syndicat existait toujours. En plus, on est un syndicat général, donc qui est présent aussi dans les imprimeries, dans les sièges éditoriaux. Donc, on avait encore des contacts en direct dans ces entreprises-là, pour peser justement sur la vision qu'avait la CGT sur notre projet. Donc on se bat là-dessus, et comme tu l'as dit, effectivement, à un moment, il se pose la question de dire « bon, faut que ça redémarre, mais sous quelle forme ?» La question de la SCOP aurait pu être posée, mais on n'a pas voulu le faire, parce que la SCOP, c'est que les salariés qui sont actionnaires. Or, nous, là, on remplit une espèce de mission de service public, quand même, qui est un point de vente, il doit être livré en presse. Et on pense que ce n'est pas aux salariés de porter cette responsabilité-là seuls. Et donc, on voulait que les pouvoirs publics soient aussi dedans, comme je l'ai dit avant. Donc, au-delà d'aller chercher sur le financement, c'était qu'ils rentrent au capital pour qu'ils puissent aussi avoir leur mot à dire. Hein, parce que, alors, la SIC, la différence, c'est qu'au capital, du coup, il y a effectivement les salariés, il y a les éditeurs, un transporteur qui travaille avec nous, parce que là aussi, ce qui était important, c'est que nous, quand notre activité s'est arrêtée, tous les sous-traitants ont perdu aussi leur travail. Donc, on est allé les chercher pour qu'ils puissent y rentrer aussi. Et bien évidemment, le dernier maillon, c'était, on va dire l'avant-dernier, puisqu'il y en a quand même un qu'on a poussé, nous, à la CGT, mais c'était donc les pouvoirs publics locaux. Donc on s'est battu pour que la métropole, la ville de Vénissieux, la ville de Saint-Priest et la ville de Corbas entrent au capital de la SIC pour défendre la distribution de l'art. Et le dernier maillon qui est essentiel, c'est pourquoi on fait tout ça ? C'est pour qu'il y ait un usager au bout qui puisse lire. Et donc on a créé un collège d'associés qu'on appelle les usagers lecteurs, qui peuvent aussi prendre part, des parts dans la société, pour aussi porter la voix de l'usager qui a, lui, besoin de trouver la presse.
Donc c'est quand même pas banal comme aventure, ça, hein, comme projet. Vous avez obtenu de redémarrer l'activité, comme tu le soulignes, sous statut de la SIC. Comment ça se passe aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ça se passe un peu mieux, parce que il faut quand même se... Le schéma, c'est quand même pendant un an, on a fait l'activité à partir de locaux occupés, sans électricité, enfin sans contrat, sans rien.
Sans chauffage, sans électricité.
C'était un peu un squat, quoi. Mmh. C'est-à-dire, on était, même si on avait été obligé de passer un bail précaire avec le propriétaire du site, puisque les locaux de la SAD, la SAD n'en était plus propriétaire, ils avaient déjà commencé le démantèlement depuis longtemps, ils l'avaient vendu, et donc on payait un loyer. Donc au moment de la liquidation, le propriétaire a voulu récupérer ses locaux. Il a fallu effectivement donc trouver des accords avec eux, et on est resté pendant un an sur ce site. Il y a avec pas mal de péripéties, puisque on peut penser l'hiver, il faut travailler avec le chauffage, il faut l'électricité. Et là, on remercie aussi les camarades, ça c'est de la grande CGT, c'est que des camarades d'autres entreprises nous ont aidés justement à pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y avait besoin, hein, pour notre activité, sachant que seul on n'y serait probablement d'ailleurs pas arrivé. Donc c'est... Et la confédéralisation des luttes, elle a son intérêt, et la solidarité à travers la CGT entre travailleurs a permis qu'on puisse aboutir. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, parce qu'on est dans des locaux à Chaponneau, on a pu signer un bail. Hein, le fait d'avoir pu créer cette SIC, le statut juridique nous a permis d'avoir aujourd'hui des locaux, de passer des contrats. Et aujourd'hui, on paye notre électricité, on paye notre chauffage comme toute entreprise.
Et vos salaires.
Et surtout, on paye nos salaires. Et, et ça, c'est le plus important, puisqu'on s'est battu pour ça, et la presse s'est distribuée. Elle a repris depuis le 1er juillet 2020, hein, comme je disais, puisqu'on l'a loco occupé, et le 15 mai, d'ailleurs un peu date symbolique, on a déménagé pile poil un an après la liquidation de l'entreprise, et le 15 mai 2021, la presse a été distribuée à partir de nos nouveaux locaux à Chaponneau. Donc c'est une belle victoire, une belle revanche, puisque les éditeurs qui voulaient se débarrasser de nous, ils sont encore obligés... De travailler avec nous. Ils ont été obligés de conclure des contrats pour nous rendre le boulot qu'ils voulaient nous enlever.
Merci Guillaume, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est une belle victoire, une belle revanche, comme tu le dis, qui démontre que les travailleurs, dès lors qu'ils le décident, sont en capacité de se réapproprier leur outil de travail et les moyens de production.
J'aurais voulu savoir comment vous gériez l'aspect concurrentiel. Du coup, si j'ai bien compris, maintenant vous êtes sur un marché concurrentiel, et comment vous gériez ça pour garder le boulot ?
Alors, ce qui est assez complexe, on part quand même d'un existant. Donc, en fait, les éditeurs, ils se regroupent pour distribuer et ils s'appuient effectivement sur un dépositaire privé, maintenant qui sous-traite. Donc, aujourd'hui, ils sous-traitent à la SIC. Nous, tout le combat a été de... Alors, j'allais dire, on n'a pas vraiment fait ça dans la dentelle. En fait, le message qu'on a fait passer, c'est que c'était notre travail et que celui qui voulait le prendre, finalement, nous le volerait. Et on a dû faire des actions syndicales assez fortes pour faire comprendre aux potentiels repreneurs qui auraient été intéressés par l'activité qu'ils allaient avoir des ennuis s'ils venaient prendre notre boulot, parce qu'on considérait qu'ils nous le volaient. Notamment parce qu'on est aussi présent dans les imprimeries et qu'il y a même eu des grèves dans les imprimeries pour justement forcer finalement les éditeurs à continuer à travailler avec nous. Pour arriver à ça, il a fallu montrer les dents. Grosso modo, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Avec un côté assez spécifique de la presse, c'est que comme on est quand même dans l'urgence, c'est-à-dire qu'un quotidien qui sort le lundi, on ne peut pas le sortir le mardi. Sinon, il est perdu. Et de fait, c'est quand même un poids non négligeable dans le rapport de force, puisque à chaque fois qu'on empêche la sortie d'un titre, ils perdent beaucoup d'argent. C'est que le rapport de force qui aura permis qu'ils reviennent et qu'ils soient obligés de nous confier l'activité. D'ailleurs, sur toutes les autres communes où malheureusement les camarades n'ont pas pu tenir dans le temps, c'est aujourd'hui des privés avec des salariés payés au lance-pierre qui effectuent la distribution de la presse. Voilà, ça c'est la réalité. Hein. Il n'y a que ceux qui se sont battus de façon acharnée qui ont pu garder leur emploi. Les patrons, ils ne sont pas gentils malheureusement pour nous.
Merci encore Guillaume. Donc Franck Perrin, tu es pilote du groupe au sein du comité stratégique de filière technologie imagerie médicale. Rien que ça, voilà, c'est déjà impressionnant. Alors, tu vas nous raconter un petit peu comment est née la création d'une plateforme prototypage et industrialisation donc pour l'imagerie médicale. Est-ce que, en fait, j'ai envie de dire Kezako.
Eh bien d'abord, effectivement, c'est un projet de façon à recréer une filière industrielle du dispositif médical technologique et de l'imagerie médicale au service des soignants. Donc en fait, c'est un projet qui est porté par la CGT, comme tu le viens de dire, au Conseil stratégique de filière industrie et technologie de la santé, qui est une émanation du Conseil national de l'industrie. Et pour rappel, en fait, c'est des instances qui sont affiliées au Premier ministre et au ministère de l'économie, où on discute un peu de la structuration des filières industrielles. Et donc la CGT est rentrée dans le Conseil stratégique de filières industrie et technologie de la santé avec pour mandat d'essayer de développer un projet pour reconstituer une filière de l'imagerie médicale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des très bons chercheurs qui génèrent des PME, des ETI ou plus communément appelés start-up, mais qui n'arrivent pas à atteindre des tailles critiques pour reconstruire en fait une filière française qui pourrait générer du matériel adapté aux besoins des soignants.
D'accord, donc c'est essentiellement pour répondre aux besoins des soignants, mais pour l'usager que nous sommes, quel intérêt ?
Pour l'usager, c'est un intérêt d'amélioration du soin, en fait. Puisque si le soignant a un outil qui est adapté à son besoin, il aura plus de temps pour soigner. Je prends un exemple. On parle du dossier patient. Quand vous êtes dans un hôpital, vous avez un dossier qui est rempli de données qui permettent au soignant de savoir quel soin il doit vous prodiguer. Or, il y a deux façons d'aborder le dossier. Soit une multinationale arrive avec une technologie, un logiciel qui n'est pas forcément adapté aux soignants. C'est-à-dire que le soignant, aujourd'hui, il va passer une heure, deux heures, trois heures à remplir le dossier patient. Et du coup, il ne lui restera plus que sur son shift deux heures ou trois heures pour soigner comme il faut la personne. C'est pour faire la clinique. Si, à contrario, on lui demande quel est son réel besoin, et qu'on lui développe un outil informatique où qui mettra 5 minutes à remplir, et puis quand il rentre dans la chambre, il aura les données justes, strictes, nécessaires pour identifier quel doit être le soin qu'il doit prodiguer. Alors il va gagner énormément de temps pour prodiguer le soin, pour faire la clinique.
Donc une plateforme pour améliorer le travail des soignants, la qualité du travail des soignants et donc du soin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez élaboré cette plateforme ?
Oui, alors c'est un projet qui date de plus de 10 ans, enfin qui a 10 ans cette année, puisqu'il est né en 2012. Il faut savoir que donc, moi, je travaille chez Thales, et Thales a une activité de production de capteurs d'imagerie médicale, de radiologie, côté de Grenoble. Et donc en 2012, ils décident de s'en séparer. À ce moment-là, on fait une lutte assez forte. On gagne le fait que cette activité-là reste dans le groupe et continue son activité. À ce moment-là, on se dit aussi que si on n'intègre pas notre entreprise dans une filière industrielle, on se reconfrontera à cette problématique assez rapidement. Et très vite, en fait, dès qu'on travaille sur le sujet, on se rend compte qu'il n'y a plus de filière d'industrie du médical technologique sur le territoire français. Et c'est un vrai problème pour, comme je viens de l'expliquer, pour les soignants. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise Covid, que le fait de ne pas avoir de filière industrielle adossée au système de santé était un réel problème.
Mais quels acteurs participent à cette plateforme ? Parce que tu l'as dit, tu l'as développée, donc il n'y a plus de filière. Il y a un risque de mise en concurrence avec des multinationales.
L'enjeu est d'arriver à recréer une filière contre ces multinationales. Mais un des enjeux, c'est d'arriver à accéder, puisqu'on est quand même dans une économie de marché, à un marché qui est complètement cadenassé par ces multinationales-là. Le but de cette plateforme est de mettre dans un lieu en lien les producteurs de technologies et les utilisateurs de technologies. Donc les producteurs de technologies sont les laboratoires de recherche, les industriels, quelle que soit leur taille, et les utilisateurs technologiques sont évidemment les médecins, les patients à la fin, mais aussi toutes les structures qui organisent le soin et qui certifient ce type de matériel pour qu'il ne soit pas dangereux pour le patient. Donc quand je dis structure, c'est évidemment le ministère de la Santé, la Sécurité sociale, les mutuelles. Et l'idée est de créer un cercle vertueux entre les technologies sur étagère, les utilisateurs qui ont des problèmes, de façon à ce que une émulation entre des technologues qui ne savent pas quoi faire de leur technologie et des utilisateurs qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Et l'idée, donc, in fine, c'est de générer de la technologie qui répondent à des problèmes très concrets. Donc les acteurs, comme je viens de l'expliquer, ça sera les laboratoires de recherche, les CHU, les sécurités sociales, les ARS, les organismes de certification, les collectivités locales. C'est à peu près tout l'écosystème français qui tourne autour de la santé.
D'accord, donc l'objectif, c'est vraiment de démontrer l'utilité de cette plateforme à l'ensemble des acteurs que tu viens de souligner. Mais après, comment ça marche très concrètement ? Donc, il y a forcément des salariés à un moment de la chaîne. Et je crois savoir que vous aussi, vous avez opté pour le statut juridique de la SIC.
Tout à fait. Donc, effectivement, l'idée, à un moment, c'est de créer une structure. Donc, créer une structure, ça veut dire des salariés, et puis ça veut dire aussi des partenaires. Donc les partenaires, je viens de les expliciter. Et l'intérêt de la SIC, bon, d'abord, c'est que c'est une structure à intérêt non lucratif. Donc ça permet à ce que les acteurs puissent se réunir dans une plateforme juridique, dans une structure juridique sans avoir la problématique de qui va tirer plus d'argent que les autres. L'autre intérêt, c'est qu'effectivement, c'est une structure juridique qui permet à la fois d'avoir des collectivités locales, l'État et des organismes privés, des industriels. Puisque dans cet organisme-là, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment qu'il y ait des laboratoires, des groupements de laboratoires qui montent au capital, les collectivités locales, pourquoi pas des ARS et l'État, et puis des industriels quand même, puisque l'enjeu, c'est quand même l'industrialisation. Et donc, on a approché à la fois des très grands industriels qui sont aujourd'hui moins dans le médical, ou pas trop dans le médical, mais qui s'y intéressent et qui ont des technologies qui peuvent être utilisées dans le médical, comme Thales, Schneider, ou pourquoi pas des équipementiers automobiles comme Valeo, ou des choses comme ça, des PME. Chacun pourra mettre un petit peu au capital. Et le deuxième intérêt, c'est qu'à travers les structures de la SIC, ce n'est pas celui qui mettra le plus au capital qui aura le contrôle. Donc on aura à la fois un contrôle collectivité locale des utilisateurs finaux, des salariés évidemment puisqu'ils feront partie de la SIC, et puis des industriels qui seront partenaires. Donc on espère créer une structure qui génère un cercle vertueux de création de valeur, valeur évidemment pas au sens capitaliste du terme, mais valeur sociétale.
Donc un beau projet, on le voit bien, qui répond à une mission de service public et d'intérêt général, mais enfin, tu dis que ça fait 10 ans que vous êtes sur ce projet. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui manque pour atteindre le but final ?
Alors, on en est proche. Hein. 10 ans, effectivement, il y a eu des hauts, des bas. D'abord, il y a eu le temps de construction.
C'est d'élaboration.
Hein. C'est du temps politique, donc forcément, c'est long. Le fait de convaincre les acteurs, ça n'a pas été trop dur parce qu'en fait... Très rapidement, on s'est rendu compte que le constat était partagé et que la solution intéressait énormément de
personnes. Ils ont mesuré l'intérêt.
Énormément de personnes. La difficulté, effectivement, c'était d'arriver à emmener, pour l'imposer déjà dans un premier temps, au niveau du conseil stratégique de filière, pour que ça devienne un vrai projet structurant. Il faut savoir que ces conseils stratégiques de filière, en fait, sont dirigés par les industriels et sont des lieux de lobby. Et donc, en fait, il ne se passe rien si on n'a pas un industriel. On peut emmener des projets, mais c'est des structures sans moyens. Donc, ce qui a débloqué et ce qui a permis de l'inscrire en tant que réel contrat de filière, c'est qu'on a réussi à emmener avec nous Thales. Ça, c'était le premier élément déclenchant. Et maintenant, on est dans la phase de construction. Et donc, le conseil stratégique de filière a donné à la CGT la responsabilité de construire. Donc, on est vraiment dans cette phase de construction où on fait de la recherche de partenariat, où on obtient des lettres d'intention. Et notre idée, aujourd'hui, c'est de construire, déjà dans un premier temps, un projet, ce qu'on appelle territoire d'industrie, de façon à réunir tous les acteurs pour finaliser... La construction et aller sur la construction de la SIC, enfin sur le démarrage de l'activité de la SIC sur l'année 2023.
Donc quand tu dis ça, ça veut dire qu'il va y avoir une période d'expérimentation en territoire ?
Alors, pas d'expérimentation, encore que nous voulions faire quelque chose de très pragmatique, donc qui part du terrain, avec des acteurs qui se confrontent aux problèmes qu'on va rencontrer depuis plusieurs années. Mais une période d'élaboration fine, parce que là, on est sur des grands principes, la recherche de partenariats. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura tous les partenaires bien identifiés, on élabore finement le projet, justement, de manière très pragmatique, en prenant bien en compte les retours d'expérience pendant 6 mois, 1 an, dans un projet territoire d'industrie. Dans le même temps, ça nous permettra de faire la recherche de financement. Et donc d'aboutir à la création de la SIC 2023, si tout va bien.
Bien, une nouvelle belle victoire à échéance à court terme. Donc tu as rencontré pas mal d'acteurs dans la dernière période au niveau national et puis bientôt en Auvergne-Rhône-Alpes avec la responsable de territoire d'industrie. Donc on est presque au bout du bout.
Effectivement, donc nous avions réussi à imposer par la rencontre de nombreux acteurs au niveau national ce projet. Maintenant, l'enjeu pour nous est de le faire au niveau régional, que ça devienne un vrai projet de territoire, puisque je ne l'ai pas dit, mais on a quand même des enjeux d'emploi sur, entre autres, les usines de Thales qui sont à côté de Grenoble. Donc, effectivement, grâce au soutien de la CGT dans son ensemble, que ce soit au niveau départemental, régional ou des différentes entreprises. Encore une fois, on peut toujours s'appuyer sur la grande CGT et la solidarité entre les camarades. Et ça on ne le dit pas assez. Et souvent, les camarades, ils n'osent pas appeler les camarades des autres entreprises ou les structures. Et il ne faut pas hésiter, parce qu'à chaque fois, on a une oreille attentive et de l'aide. Donc ça, c'est vraiment un point important et un point fort de la CGT. Donc grâce à cette aide-là, on est en train de transformer ce projet national un peu abstrait en un projet territoire réellement concret.
Bravo Franck, on va suivre ça très très près ensemble. Et puis, un peu comme l'a démontré Guillaume, j'espère qu'on pourra inaugurer cette plateforme dans les meilleurs délais. Encore bravo à tous les deux et à bientôt.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout de bonheur.
Ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Laïra, laïra, yeah.
Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour
pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend. Nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like, yes. Merci patron. Quel plaisir de travailler.
Attendant ce jour pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Like, yeah. Nous serons patrons.
Travaillez pour nous,
vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Light,
il est plus petit que le jardin de ma tante.
Après ce moment de nostalgie avec les Charlots, nous continuons avec Thierry Achintre. Comment agir dans les CSE et au travers des accords d'entreprise pour préserver l'environnement? Sur quel sujet intervenir? Quelles sont les possibilités juridiques? Autant de questions cruciales auxquelles Thierry va répondre. À toi Thierry.
La Convention citoyenne pour le climat, vous connaissez? Sûrement, bien entendu. Souvent décriée par certains, jugée sans effet et sans pouvoir par d'autres, ou encore qualifiée de commission ad hoc par les plus sceptiques. Cependant, le travail réalisé par les différentes commissions a permis d'établir 149 propositions d'action concrètes pour agir à tous les niveaux contre le dérèglement climatique. Même si 4 de ces propositions ont été rejetées, soit par choix politique, soit neutralisées au niveau du Parlement, 145 autres ont été retranscrites dans le droit interne. Ce qui est à noter, c'est que toutes ces propositions ont fait l'objet d'une retranscription législative, notamment dans la loi dite climat, promulguée en août dernier, ou était déjà existante, mais qu'il fallait mettre en œuvre. Les représentants du personnel ont leur rôle à jouer dans cette démarche de lutte contre le dérèglement climatique, leur rôle de contrôle des nouvelles obligations qui sont faites aux employeurs en matière d'information-consultation, de protection de l'environnement, au même titre que celle de la santé et de la sécurité des salariés, est renforcée par les nouvelles dispositions adoptées. Ils ne doivent cependant pas se limiter à ce rôle, mais au contraire, être actrices et acteurs de cette lutte qui nous concerne tous et se positionner en force de proposition dans les CSE et dans les négociations d'accords d'entreprise et de branche. Commençons par le thème « consommer ». La Convention propose de sensibiliser l'ensemble de la population française en reliant compréhension de l'urgence climatique et passage à l'action. Pour y répondre, les IRP peuvent s'inscrire dans l'anticipation au sein des branches professionnelles des besoins en formation par l'accompagnement des salariés vers leur nouveau métier et la réorientation des dépenses liées aux activités sociales et culturelles proposées par les CSE afin de sensibiliser les salariés vers des dépenses éco-responsables. Les propositions de la Convention, reprises par le législateur, offrent des possibilités supplémentaires de contrôle et de sanctions plus efficaces des atteintes aux règles en matière environnementale. Ainsi, les IRP sont, à deux titres, expressément identifiés comme organes de contrôle de l'application des réglementations liées à la protection de l'environnement. Ils sont ainsi renforcés dans leur protection dans le cadre de l'exercice du droit de lanceur d'alerte en matière environnementale et de santé publique défini par le Code du travail. Ils pourront également imposer le respect par l'employeur de son devoir de vigilance, encadré par le Code du commerce. Ce devoir de vigilance est concrétisé par, et je le cite, « un plan comportant les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle. » Fin de citation. Ce devoir impératif est du même ordre public que l'obligation de l'employeur en termes de protection de la santé de ses salariés. La responsabilisation de tous les acteurs du monde du travail, employeurs et travailleurs, et le nécessaire accompagnement de l'évolution des compétences de toutes et tous face à ce défi de la transition écologique, des moyens et des méthodes de production, sont de tâches que doivent intégrer les représentants du personnel. Ainsi, leur rôle sera d'analyser les impacts sur les métiers lors de la consultation obligatoire du CSE sur les décisions impactant les techniques de production et d'agir en matière d'incitation à l'évolution des métiers et aux leviers juridiques dont ils disposent, notamment faire respecter par l'employeur son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi des salariés dont les activités seront impactées par la transition. Les investissements réalisés grâce à l'épargne salariale représentent aujourd'hui 47,3 milliards d'euros d'encours. La nécessité de contrôle s'impose afin que cette épargne salariale favorise l'éco-responsabilité. Les représentants du personnel devront s'en saisir lors des révisions des accords d'intéressement et de participation de leur entreprise en portant les revendications suivantes. Sensibilisation et incitation via le calcul de l'intéressement en incluant des indicateurs contraignants et co-responsabilisant l'entreprise et en négociant l'augmentation du montant de l'intéressement en cas de non-atteinte des objectifs de la politique RSE. Les publications d'entreprises concernant leur politique au regard du climat et les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs activités sont intégrées à leur reporting RSE. Le CSE doit être consulté sur ce rapport et y exercer son droit à expertise. Cette information-consultation a été introduite dans le droit des CSE par la Convention. Les CSE peuvent d'ores et déjà, lors de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, insister sur l'analyse du caractère durable de leur activité et de leur métier au regard de l'impact de la transition écologique sur leur modèle économique. À ce titre, l'expert du CSE pourra analyser le rapport extra-financier actuel et auditer les directions RSE et RH afin d'examiner la cohérence et la convergence de leurs plans stratégiques à court, moyen et long terme. Enfin, la transformation du travail et de l'emploi passe nécessairement par l'accompagnement de l'évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux. Les accords de branche et d'entreprise négociés sur le thème de la numérisation des activités doivent intégrer les mesures d'incitation à la modération en matière d'achat et d'usage. Le thème des déplacements, domicile-travail, professionnel ou collectif, sont également un axe d'action pour les IRP. Depuis 2020, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail est introduite dans la négociation annuelle obligatoire en entreprise sur la qualité de vie au travail. Ainsi, parmi les sujets que les représentants du personnel devront y introduire, la réduction du coût de la mobilité par la mise en place du forfait mobilité durable introduit par la nouvelle législation prévoit que la négociation du forfait pourra atteindre 400 euros par an et par salarié et concerner l'incitation à l'usage de modes de transport écologiquement vertueux. Au regard de la nécessaire obligation d'agir contre les émissions de gaz à effet de serre et de la situation sanitaire que nous venons de vivre, il est primordial d'ouvrir des négociations à tous les niveaux, dans les branches et dans les entreprises, d'accords de mise en place du télétravail ou de réviser les accords existants. Au-delà des zones urbaines et des grandes lignes, il est difficile d'accéder au train. Il est nécessaire de développer une offre de trains sur l'ensemble du territoire et rendre plus attractive l'offre existante, notamment pour les salariés. Là aussi, les IRP ont toute légitimité d'action, notamment par exemple en organisant la consultation des salariés sur leurs moyens de transport utilisés lors de leur trajet domicile-travail ou lors de leur déplacement professionnel, et en favorisant les plans inter-entreprises et intra-entreprises dans le cadre des plans de mobilité. L'objectif est d'élaborer des propositions d'arrangements locaux travaillées avec les salariés et les élus des CSE des autres entreprises locales pour créer des plans de mobilité intelligents inter-entreprises. Les plans de mobilité inter-entreprises et intra-entreprises peuvent être adjoints par les délégués syndicaux lors de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail. Enfin, les deux derniers thèmes des groupes de travail de la Convention, se loger et se nourrir, sont aussi importants que les précédents dans l'action des IRP. Le CSE doit être consulté dès lors que l'employeur a pour projet un déménagement ou une rénovation importante des locaux de travail. Sa mission sera d'identifier les problématiques engendrées par l'emménagement dans de nouveaux locaux ou par les travaux de rénovation engagés. Outre la question centrale de la mobilité en cas de déménagement, d'autres points de vigilance sont à analyser. La dimension ergonomique des nouveaux locaux, le respect des normes légales, notamment celles relatives à la rénovation énergétique des bâtiments et leur consommation d'énergie, et le choix des terrains, si une construction est prévue, afin de lutter contre l'artificialisation des sols et, le cas échéant, inciter l'employeur à rechercher de locaux vacants dans la même zone d'emploi. Hors tout nouveau projet de l'employeur, nous ne pouvons que conseiller les représentants du personnel au CSE d'engager des actions de vigilance quant aux données énergétiques des bâtiments où se réalisent leurs activités professionnelles vis-à-vis des nouvelles normes imposées, afin, si nécessaire, d'alerter l'employeur sur la nécessité d'engager des opérations de rénovation. Nous terminerons sur la gestion du service de restauration du personnel, qui peut être soit délégué par le CSE à l'employeur, soit assuré par le CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles. Si cette activité est de la responsabilité du CSE, alors les élus devront engager une démarche éco-responsable en engageant la restauration collective vers des pratiques vertueuses aussi bien dans l'intérêt de la santé des salariés que dans la lutte contre le réchauffement climatique, en favorisant par exemple les circuits courts. Dans le cas où cette activité est déléguée à l'employeur, là encore les élus du CSE gardent leurs prérogatives d'exercice de contrôle du respect des normes environnementales, de santé et de sécurité alimentaire, et le cas échéant, d'exercer leur droit d'alerte, soit environnemental, soit pour mise en danger de la santé des salariés. En conclusion, nous espérons avoir, par ces quelques exemples non exhaustifs, suscité votre motivation à développer des actions concrètes dans votre entreprise au profit de la lutte contre le dérèglement climatique. Ces nouvelles prérogatives des IRP permettent une reprise en main des modes de production. Leur mode de mise en œuvre nécessite un débat collectif au sein des organisations. Il en va de notre responsabilité à toutes et tous vis-à-vis de nos contemporains, mais aussi vis-à-vis des générations futures ou en devenir.
Ça y est, c'est déjà fini, enfin presque fini. D'abord, une petite information supplémentaire. Vous pouvez retrouver sur la plateforme numérique Tout sur le CSE les fiches explicatives reprenant et développant les points que nous a présentés Thierry. Nous allons finir, comme d'habitude, en poésie, avec un superbe poème de Jacques Prévert lu par Agnès. Pour la prochaine émission, nous vous préparons une promenade sonore au pays de l'or blanc. Restez à l'affût.
Le paysage changeur, Jacques Prévert. De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil c'est l'insolation et le clair de lune pour les travailleurs de nuit. C'est la bronchite, la pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand le travailleur s'endort, il est bercé par l'insomnie. Et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail qui ricane, qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave, et puis il sort à moitié éveillé, à moitié endormi. Il marche dans la rue à moitié éveillé, à moitié endormi, et il prend l'autobus, le service ouvrier, et l'autobus, le chauffeur, le receveur, et tous les travailleurs à moitié réveillés, à moitié endormis, traversent le paysage figé entre le petit jour et la nuit, le paysage de briques, de fenêtres à courant d'air de corridor, le paysage éclipse, le paysage prison, le paysage sans air, sans lumière, sans rire ni saison, le paysage glacé des cités ouvrières, glacé en plein été comme au cœur de l'hiver, le paysage éteint, le paysage sans rien, le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté, le paysage charbon, le paysage poussière, le paysage cambouis, le paysage mâchefer, le paysage châtré, gommé, effacé, relégué, rejeté dans l'ombre, dans la grande ombre, l'ombre du capital, l'ombre du profit. Sur ce paysage, parfois un astre, lui, un seul, le faux soleil, le soleil blême, le soleil couché, le soleil chien du capital, le vieux soleil de cuivre, le vieux soleil clairon, le vieux soleil ciboire, le vieux soleil fistule, le dégoûtant soleil du roi soleil, le soleil d'Austerlitz, le soleil de Verdun, le soleil fétiche, le soleil tricolore et incolore, l'astre des désastres, l'astre de la vacherie, l'astre de la tuerie, l'astre de la connerie, le soleil mort. Et le paysage à moitié construit, à moitié démoli, à moitié réveillé, à moitié endormi, s'effondre dans la guerre, le malheur et l'oubli. Et puis, il recommence une fois la guerre finie. Il se rebâtit lui-même dans l'ombre et le capital sourit. Mais un jour, le vrai soleil viendra. Un vrai soleil dur qui réveillera le paysage trop mou. Et les travailleurs sortiront, ils verront alors le soleil, le vrai, le dur, le rouge soleil de la révolution, et ils se compteront, et ils se comprendront, et ils verront leur ombre, et ils regarderont l'ombre, et ils riront, et ils s'avanceront une dernière fois, le capital voudra les empêcher de rire, ils le tueront, et ils l'enterreront dans la terre sous le paysage de misère, et le paysage de misère, de profit, de poussière et de charbon, ils le brûleront, ils le raseront, et ils en fabriqueront un autre en chantant un paysage tout nouveau, tout beau, un vrai paysage tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil. Et même, ils changeront l'hiver en printemps.
La radio de la CGT.